Radio Okapi.
Le journal, présenté par Grace Amzati Masanzi.
À la une de l'actualité, c'est décidé. Les troupes de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SAMI RDC, vont se retirer de la RDC, marquant ainsi la fin de cette mission. Annonce faite ce jeudi à l'issue d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Des précisions dans quelques instants. Plus de 24 000 élèves ne vont plus à l'école depuis le mois de février dans la province de l'Ituri. À la base, la résurgence des violences des groupes armés, surtout dans les territoires des Djougou, rapporte l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, ANAPECO. Cette structure en appelle à la responsabilité du gouvernement. L'invité de la rédaction ce soir est le coordonnateur du centre de formation groupe Baibongue Construction. Baibongue Kubirwa Blaise nous parle du manque d'électricité dans la ville de Kindu, au Maniema. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC décident de mettre fin à la mission de la SADC en RDC, SAMI RDC. L'annonce est faite dans un communiqué publié aujourd'hui à l'issue d'un sommet extraordinaire présidé par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa qui s'est tenu par visioconférence pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les détails avec Martial Papimukeba.
Dans ce communiqué, le sommet exprime sa profonde préoccupation face à la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'est du pays, notamment l'occupation des villes de Goma et Bukavu par les M23, ainsi que les blocages des principales routes d'approvisionnement rendant difficile l'acheminement de l'aide humanitaire. Le sommet a appelé à la protection et à la libre circulation des civils, cherchant à se mettre en sécurité et a exhorté toutes les parties à respecter les principes humanitaires internationaux, à cesser les attaques contre les infrastructures civiles et à garantir un accès humanitaire sans entrave. Une décision a été prise, celle de mettre fin à la mission de la SADC en RDC samedi à Arsi et le lancement d'un retrait progressif des troupes. En parallèle, la SADC a réaffirmé son engagement à soutenir la RDC dans ses efforts pour retrouver la paix et la stabilité dans l'Est, appelant à une solution politique impliquant toutes les parties prenantes, y compris les acteurs étatiques et non étatiques, militaires et non militaires, en fait de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC.
Martial Papi Mukeba. Dans la foulée, le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko et de l'Église du Christ au Congo ECC salue l'initiative de dialogue direct annoncée par l'Angola entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Ces deux structures ont exprimé leur position ce jeudi à travers un communiqué conjoint signé par Mgr Fulgence Muteba pour la Senko et le révérend André Bokundua pour l'ECC. Selon ses responsables ecclésiastiques, cette initiative représente le point de départ d'un dialogue global et inclusif devant forger un consensus national. Ronéline Tibonera a parcouru ce document et nous en donne le résumé.
S'inscrivant dans leur mission pastorale visant à instaurer un pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC, ces pasteurs expriment leur reconnaissance envers les efforts déployés par João Lourenço, président de l'Angola. Sa démarche, selon eux, constitue une contribution significative à la recherche de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Le même acteur, dans ses communiqués, adresse également leur gratitude au président de la RDC pour avoir accepté de privilégier les solutions pacifiques dans le règlement du conflit, rappelant qu'aucune solution militaire ne saurait résoudre durablement cette crise. La Senko et l'ECC invitent l'ensemble des parties prenantes à répondre favorablement à l'appel au dialogue sincère initié par les présidents angolais. Alors que la situation humanitaire demeure préoccupante dans l'est du pays, ces deux organisations exhortent les acteurs en conflit à ouvrir un couloir humanitaire en faveur de populations affectées, conclut le communiqué.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture du procès des officiers supérieurs des FARDC et de la police nationale congolaise, c'est jeudi devant la haute cour militaire à Kinshasa. Ces officiers sont poursuivis par le ministère public pour avoir fui face à l'avancée des rebelles du M23 AFC à Goma dans le Nord Kivu le 28 janvier dernier. À cette première audience d'introduction, la haute cour militaire les a identifiés et leur a signifié les préventions mises à leur charge avant de renvoyer la cause au 20 mars prochain pour l'instruction du fond. Le compte rendu de Jeff Ngai.
Ce renvoi consiste à ce que les parties au procès s'imprègnent du dossier. Se trouve dans le bourse des accusés le général-major Dieu Gentil Alengbia, commandant de la 34e région militaire, des généraux de brigade Dani Yangba et Papi Lupembe, Deux commissaires de la police nationale, dont le divisionnaire Romuald Ekuka, qui assurait l'intérim du gouverneur du Nord Kivu et son adjoint Eddie Mukuna. Ils sont prévenus de lâcheté, perte de matériel militaire, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et violation des consignes. Fait puni par l'article 113 du Code pénal et militaire selon le greffe. D'après l'auditeur général des FRDC, ces officiers sont réputés coupables devant l'avancée de l'ennemi en ravissant un des bateaux en partance pour Bukavu, quittant ainsi Goma et abandonnant les troupes au front alors que tout militaire est censé rester en poste, arme à la main, jusqu'au sacrifice suprême. Leur conseil plaide déjà pour la liberté provisoire de certains prévenus qu'ils jugent malades pour des soins et la prolongation du délai de renvoi. Mais la cour est restée intransigeante.
Merci à vous, Jeff Ngoy, pour toutes ces explications. Pendant ce temps, au sud Kivu, une dizaine de corps jonchaient les différentes rues de la ville de Bukavu ces jeudi matin. Les circonstances de leur mort ne sont pas connues par la population de cette ville, sans police ni prison, depuis sa prise par le M23 soutenu par les Rwandais. Une fois de plus, Ronelyne Tibonera.
Les habitants de toutes les trois communes de Bukavu comptent les morts chaque jour, mais la nuit dernière a battu le record. 13 corps, majoritairement criblés de balles, gisaient dans différents endroits. Les cadres de base des avenues éplorées ont rapporté la situation ce matin aux responsables du M23 qui contrôle actuellement la ville de Bukavu. Et en dehors de Bukavu, les milliers ruraux sont aussi infectés par l'insécurité. Des hommes armés, non autrement identifiés, ont semé la terreur toute la nuit à Mumosho. Cette famille ont été visitées par une bande de gangsters armés. Ils ont tabassé et blessé un couple avant de dévaliser leur maison de commerce. Les assaillants se sont introduits par effraction dans plusieurs autres maisons qu'ils ont pillées de fond en comble.
Le groupe armé M23, soutenu par les Rwandais et l'Alliance Fleuve Congo, ont menacé, placé en détention et attaqué des journalistes, des détracteurs et des activistes de la société civile depuis la prise de Goma et de Bukavu. C'est ce qu'indique un rapport de l'ONG Human Rights Watch publié hier mercredi. L'ONG affirme avoir reçu des informations crédibles indiquant que plus de 200 activistes ont fait des demandes de protection depuis que le M23 a lancé son offensive sur Goma en janvier puis a pris la capitale provinciale du Sud Kivu, Bukavu, en février. Le résumé de ces rapports avec vous, Blaise Makassi.
Dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, note le rapport, les combattants du M23 ont fait des descentes dans les maisons et proféré des menaces de mort et de représailles, sapant le travail des médias indépendants et d'organisations de la société civile. Les combattants du M23 ont également placé en détention des leaders de la société civile et commis des exécutions sommaires, notamment le meurtre du chanteur Delgati Dengo, qui était aussi activiste, à son domicile et 5 hommes soumis à du travail forcé. Les autorités du M23 et des l'AFC ainsi que le gouvernement rwandais sont tenus de respecter le droit international humanitaire dans les zones qu'ils occupent. Il devrait permettre aux activistes de la société civile et aux journalistes de travailler et de se déplacer librement et faire rendre des comptes à leurs membres responsables d'abus, recommande le rapport. Après la prise de Goma par le M23 et les forces rwandaises, l'AFC a remplacé la police et d'autres institutions gouvernementales nationales dans la ville. Depuis lors, des combattants du M23 ont battu et exécuté sommairement des personnes suspectées de soutenir les forces armées congolaises et leurs alliés et ont pillé des maisons, conclut les rapports.
Entre-temps, sur le terrain au Nord Kivu, la situation est restée tendue ces jeudi dans la région de Nyabiondo, Kachebere et Kibati, une zone à cheval entre les territoires de Masisi et Walikale. Les rebelles du M23 AFC ont occupé la cité de Kachebere hier mercredi en début de soirée, après la prise de la cité de Nyabiondo depuis le week-end dernier. L'occupation de Kachebere expose grandement les chefs-lieux de Walikale, bien que situés à une centaine de kilomètres de là, s'inquiètent les acteurs locaux. Si les rebelles s'emparent du Walikale centre, ils ne tarderont pas à atteindre Kisangani qui reste dans leur viseur, estiment divers observateurs. Élise Kavira.
Les rebelles du M23 AFC sont arrivés hier à Kachebere, chef-lieu du groupement Luberike en territoire de Walikale. C'est à une quarantaine de kilomètres de Masisi centre. Ces derniers ont même tenu un rassemblement dans la cité. Cependant, plusieurs sources rapportent que des renforts en Wazalendo et en FARDC en provenance de Pinga seraient en route pour tenter de récupérer Nyabiondo. Des échanges de tirs ont été signalés ce matin vers 9h aux environs de Nyabiondo, sans plus de précisions néanmoins. La population qui tentait de regagner leur domicile à Nyabiondo fut obligée de repartir encore en direction de la Brousse et d'autres au centre de santé de Nyabiondo. Cette progression des rebelles dans les territoires de Walikale inquiète la population locale. D'après nos sources, les habitants des localités de Kibwa, Luvungi et au-delà ont commencé à vider leur village pour se mettre à l'abri. Plusieurs sources locales affirment également que même la société minière Alpha Mine Bissier Mining a commencé à évacuer son personnel dans la zone depuis ce jeudi. Cette situation d'instabilité aggrave les conditions humanitaires déjà précaires dans cette partie du Nord Kivu à cause de l'absence d'infrastructures.
Nous l'avons dit dans les titres, en Ituri, environ 24 500 élèves, dont plus de 2000 finalistes du primaire et du secondaire, ne vont pas à l'école depuis le mois de février. Ces chiffres ont été rendus publics hier par le président de l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, ANAPECO. David Mputu attribue cela à la résurgence des violences des groupes armés, surtout dans les territoires de Djougou, mais aussi à la psychose observée depuis deux semaines, notamment à Bounia, qui a entraîné le déplacement des milliers de personnes. Il demande au gouvernement de mettre fin aux conflits armés qui persiste depuis 2017 avec des conséquences graves sur l'éducation des enfants. David Mputu est au micro de Isaac Raymond.
Nous avons beaucoup de nos enfants qui ne partent pas à l'école. Nous avons au moins 24 558 élèves qui sont inscrits régulièrement, dont pour ce moment, ils sont en errance. Nous avons recensé au moins 66 écoles qui sont dans la rue depuis le mois de février. Nous avons au moins 1622 élèves finalistes de primaire. Nous avons également 526 élèves finalistes qui attendent l'examen d'État. Les enfants ont abandonné les études à cause de l'insécurité. C'est un message que nous demandons aux autorités habilitées à donner la paix, à rassurer la paix au niveau de parents pour que le parent reste constant dans le milieu. Nous aimons bien que les enfants restent et continuent à étudier. Mais lorsque vous n'avez pas la sécurité de vous-même en main, pouvez-vous accepter d'y rester? À l'autorité d'assurer la sécurité aux parents.
Santé. Dans la province du Tanganyika, 32 cas de choléra sont enregistrés à la 10e semaine dans l'aire de santé de Mulunguzi, zone de santé de Moba. C'est confié aujourd'hui à Radio Okapi. Le médecin chef des zones de santé à l'intérim indique que plusieurs cas de choléra proviennent des différents villages. Docteur Ricky Mbayo alerte sur cette situation qui nécessite, d'après lui, une mobilisation urgente et collective pour lutter contre cette maladie. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Paul Mounanga.
Jusqu'à ce jour, on continue encore à notifier des cas. Du moins, on notifie et on riposte parce que les intrants sont là. Ce n'est pas seulement à Mulunguzi Centre. Les villages différents de l'aire de santé de Mulunguzi sont en train de notifier des cas. Quand on commence à notifier 2, 3, 4 cas par jour, là, ça commence à être inquiétant. Mais de manière générale, la zone de santé de Moba vit avec cette maladie. Même l'axe plateau n'est pas épargné. Parce que nous sommes en mouvement. Il y a des gens qui quittent Mulunguzi, qui passent par Mutambala, qui se retrouvent à Mulondi. Vous connaissez vous-même la transmission de cette maladie. Elle est très rapide. Donc, nous allons demander aux gens de respecter les gestes barrières. Donc, se laver les mains avec du savon, ne pas jeter les matières fécales dans les cours d'eau. Si vous avez été en contact avec quelqu'un qui est soupçonné, il faut vite aller vous présenter au centre pour une désinfection. Et quand on a un cas suspect, vite aller au centre, annoncer pour qu'on puisse déjà riposter, aller désinfecter. C'était le lieu là où a vécu la personne malade.
Merci de nous recevoir à Sabiazo dans les territoires des Pangi et à Lusangi dans les territoires des Kabambare. Nous sommes dans la province du Maniema où un conflit foncier opposant les habitants des villages Lumamba et Kavundaganya a fait des blessés graves et viol des femmes. Ces villages se trouvent dans les secteurs des Bébé Wamaza dans les territoires des Kabambare. Selon le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité qui est sur place, ces affrontements du week-end dernier font un bilan de 7 personnes grièvement blessées et des femmes systématiquement violées. Des voix s'élèvent de part et d'autre pour condamner ces actes et appeler les autorités compétentes à remettre l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Radio Kapi Kindu, Florence Kizalunga.
Le ministre provincial de l'Intérieur, après sa visite aux victimes, Lawa Moselemani fait savoir que ces actes ne resteront pas impunis.
C'est un dossier qui évolue au niveau de la justice à Kindu. Pendant qu'on attendait qu'il y ait une solution finale, contre toute attente, les gens se permettent de se lancer dans des actes de vandalisme. C'est pourquoi, alors, pour ceux qui se sont compromis, ceux qui ont blessé, ceux qui ont violé, on va les attraper et ils vont être acheminés devant les instances judiciaires pour qu'ils puissent répondre.
De son côté, les députés L'unité nationale de Kabambaré appelle à la cohésion. Emedi Amour Xavier.
Moi, je voulais interpeller mes frères, qu'ils puissent créer un amour, qu'ils puissent créer un sentiment de vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble regorge beaucoup d'éléments. Et je suis en train d'interpeller les autorités en place. Précisément, et surtout les chefs de secteur de Bébé Omaza, je voulais qu'ils prennent le devant, qu'ils se mettent autour d'une table, qu'ils trouvent une solution que moi j'appelle solution coutumière, parce que la coutume, c'est celle qui nous met ensemble. La coutume a une force dans nos sociétés africaines.
Signalant que ces blessés et ces femmes violées sont internées au centre de santé de Omaza pour leur prise en charge. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le risque d'une reprise de la guerre civile au Soudan du Sud inquiète ses voisins. C'est pourquoi le bloc régional IGAD, autorité intergouvernementale pour le développement qui comprend 8 pays de l'Afrique de l'Est, a organisé un sommet extraordinaire de ses chefs d'État virtuellement ce jeudi 13 mars. Seuls les présidents djiboutiens Ismaïl Omar Guelleh et somalien Hassan Cheikh Mohamoud ont participé en personne. Les autres pays ont délégué des ministres. Le Soudan du Sud, lui, était absent.
L'invité.
C'est Baibong Kubirwa Blaise. Il est coordonnateur du centre de formation groupe Baibong Construction. Il nous parle du manque d'électricité dans la ville de Kindu, ce qui a un impact négatif sur les activités. Baibong Kubirwa Blaise s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Baibong Kubirwa Blaise, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
En cette période où la ville de Kindu fait face au problème du courant électrique, vous êtes un ingénieur. Comment est-ce que vous travaillez?
Bon, nous travaillons dans des conditions très difficiles parce que le fait que le courant électrique ne vient pas régulièrement dans nos centres de formation comme moyen d'utilisation pour souder les histoires. Vraiment, nous sommes dans des difficultés qui demandent une intervention au niveau du gouvernement, soit provincial et national.
Alors, à l'absence du courant, qu'est-ce que vous faites pour bien travailler? Vous recourez aux groupes électrogènes?
Bien sûr que nous faisons recours aux groupes électrogènes, mais cela nous crée beaucoup de problèmes sur les prix des marchandises que nous vendons. Vous savez, quand on fabrique des portes et des fenêtres moyennant le courant, c'est différent à la fabrication des portes et des fenêtres par les mazouts, l'essence, soit les carburants. Alors là, ça nous demande de rehausser les prix et pour que nous puissions nous retrouver dans les affaires que nous sommes en train de faire.
Cela a un impact négatif par rapport au prix et où est-ce que vous vous approvisionnez?
Bon, nous nous approvisionnons au niveau de Kampala, en Ouganda, au niveau de Dar es Salaam, en Tanzanie là-bas, et au Burundi et aussi à Goma. Bien que nous nous procurons des matériels de construction au niveau de Goma, et avec l'état actuel ça ne marche pas, donc il y a toujours des difficultés.
Comme ça ne marche pas, quand vous vous procurez comme ça, vos matériels viennent de Kampala, de Dar es Salaam, ça passe par l'avion ou bien ça vient par les trains?
Normalement, nous utilisons toutes les voies et quand il y a problème, un mauvais état de route, et là on utilise directement l'avion. Et quand on utilise l'avion, là les histoires coûtent extrêmement cher parce que regardez, au moins 1 kilo de marchandises Goma Kindu, ça va au-delà de 1 dollar par kilo. Et là, ça nous met à danger parce que pour vendre les histoires, parfois on ne gagne pas, parfois on est perdant. Alors, quand on utilise les voies routières, là, ça nous procure quelque chose comme intérêt, mais aussi il y a trop de problèmes parce que là, on attend au moins dans la saison sèche, là, on peut amener les marchandises facilement. Mais quand il y a une saison de pluie, là, c'est un danger. Et aussi, les propriétaires des moyens de transport, ils nous taxent très cher parce que pour accepter que son véhicule quitte ou vire à Bukavu, Goma jusqu'ici, là, il doit hausser les prix pour qu'il se trouve, voire même les tracasseries qui se trouvent dans les routes. Aller voir ou vire à Kindu, on peut perdre au niveau de 3 000 à 4 000 dollars pour les tracasseurs. Alors, nous demandons aussi à nos dirigeants de regarder avec un œil vigilant pour trouver une solution par rapport à ça.
Dans votre centre de formation ici, combien de personnes que vous employez?
Bon, nous avons des formateurs ici, nous avons aussi des apprenants. Les fonctionnaires sont au-delà de 12, le maximum c'est 15. Et les apprenants sont au niveau de 2020.
Est-ce que vous avez aussi l'accompagnement des autorités provinciales et si vous payez aussi régulièrement les taxes?
Bon, l'accompagnement des autorités provinciales, on peut accepter, oui, parce que nous sommes bien protégés, mais avec des taxes, là, on ne nous accompagne pas. Parce que voilà, on dit que trop de taxes, c'est la taxe. Nous sommes taxés à tous les niveaux et cela nous handicape. On ne sait pas comment fonctionner. Voici l'occasion pour demander aux autorités provinciales qui sont nationales de nous aider. Nous voulons un accompagnement. Et aussi, je félicite beaucoup la DGA de la Fogeke qui nous a visités ici à Kindu pour nous proposer au moins des crédits pour que nous puissions évoluer très bien. Nous voudrions aussi que le gouvernement puisse penser à nous parce qu'avec les centres de formation, ce sont des centres qui ont été créés par l'État congolais. Mais aujourd'hui, on nous taxe alors qu'un centre de formation est considéré comme une école qui ne devrait pas payer les taxes. Surtout à cette période où on ne travaille pas très bien. Et comme vous le savez, le courant électrique amène le développement que les autorités y pensent.
Monsieur Baibonge Kubwiro Blaise, je vous remercie.
Je vous remercie aussi, madame.
Notre invité répond aux questions de Florence Kizalunga. 18h20 dans ses studios de Radio Kapi Kinshasa. Par ici prend fin ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga et supervisé par Pelé Kipelamondo. La mise en onde de Pierre Tiassinoa et la présentation de Grace Amzati Masanzi. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net. Merci.